France Inter, franceinter.com.
Le protocole est l'expression de l'ordre dans la République. Charles de Gaulle. Deux mille ans d'histoire. Il y a près de cinq siècles, le 2 janvier 1585, en fixant pour la première fois les règles à observer pendant toutes les cérémonies de son règne, Henri III a inventé ce qu'on appelait autrefois l'étiquette et aujourd'hui le protocole. Toute une série d'usages, de rites, de préséances et de symboles destinés à donner de l'éclat au pouvoir et à établir une hiérarchie entre ceux qui l'exercent. Et s'il n'y a plus de roi en France, la République s'est bien gardée de supprimer le protocole qui symbolisait à ses yeux la permanence de l'État. Et elle célèbre aujourd'hui l'entrée de ses présidents à l'Élysée avec presque autant de faste et de solennité que la monarchie couronnait autrefois ses rois. France Inter, Jacqueline Petrose, le 16 mai 2007.
Et 21 coups de canon, un tapis rouge, un collier de grand croix de la Légion d'honneur, un président donc qui part, un nouveau qui arrive. C'est l'inventaire de la matinée d'investiture de Nicolas Sarkozy. La cérémonie de ce matin a été réglée au millimètre avec Ludovic Faux, quelques moments moins formels.
L'arrivée de Cécilia Sarkozy, qui vêtue d'une magnifique robe ivoire, a donné un côté un peu glamour à la cérémonie. Interpellée par les photographes, elle s'arrête un instant sur le tapis rouge, en compagnie des enfants du couple. Pendant quelques secondes, la cour de l'Élysée prend alors des airs de festival de Cannes. Et puis, dernière anecdote, dans la salle des fêtes, le jeune Louis, enfant du couple Sarkozy, se penche sur le grand collier de la Légion d'honneur. Le général Kelch, qui veille sur l'objet, lui donne alors quelques explications. Au final, la cérémonie de ce matin a donc pris un aspect un peu familial qui marque sans doute un changement de style à l'Élysée.
André Gadeau, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était l'investiture en mai dernier de l'actuel président de la République, une des cérémonies importantes organisées par le service du protocole, dont le chef est d'ailleurs le premier, je crois, à accueillir le président de la République quand il fait son entrée pour la première fois à l'Élysée. Alors, vous-même, vous avez dirigé le protocole pendant 5 ans, entre 1988 et 1990. À l'époque de François Mitterrand. Quel est le rôle de ce personnage qui est le chef du protocole, dont on connaît rarement le nom, mais qui est essentiel, qui joue un rôle important auprès du chef de l'État? Quel est son rôle?
Bien, monsieur, le rôle est multiforme. La plus importante fonction, je dirais, du chef du protocole, c'est d'organiser tout ce qui concerne le contact du chef de l'État avec les chefs d'État étrangers. C'est-à-dire les visites, les réceptions de chefs d'État étrangers à Paris, l'organisation à Paris de grandes conférences internationales, de grandes manifestations, de groupes de manifestations, comme c'était le cas pour moi avec le bicentenaire, si vous voulez, de la Révolution de 89. Un autre rôle, c'est de s'occuper pour le chef de l'État et pour le contact du chef de l'État, de tout ce qui se passe à l'Élysée, c'est-à-dire la cérémonie d'investiture, mais aussi les vœux, le 14 juillet, et toute autre cérémonie que même de travail, je veux dire, que le chef de l'État organise chez lui à l'Élysée.
Mais uniquement à l'Élysée, parce qu'il y a un protocole aussi dans les grandes institutions de l'État, il y a un protocole à l'Assemblée nationale, au Sénat et même à l'Hôtel de Ville. Est-ce que ça a un rapport avec vos fonctions à l'Élysée?
Ça a un rapport de travail, mais ça n'a pas un rapport hiérarchique. La personnalité française dans ce domaine est affirmée, il n'y a qu'un protocole d'État. Et font exception au protocole d'État, le protocole de la mairie de Paris, le protocole des assemblées parlementaires et le protocole des anciens combattants pour ce qui concerne les manifestations à l'Arc de Triomphe. Alors évidemment, nous travaillons en bonne intelligence, par exemple lors d'une visite d'État, si le chef d'État invité rend visite aux assemblées, le protocole des assemblées s'exerce. Mais le protocole d'État amène le chef d'État jusque-là, si vous voulez.
Alors nous sommes actuellement en République, mais le protocole existait bien avant la Révolution française. C'est un héritage du XVIe siècle et le protocole y apparaît sous un autre nom, André Gadeau.
Oui, de toute façon, le protocole est marqué par l'héritage historique et culturel de l'État. Le protocole des Valois, la notion de protocole à l'époque, c'était l'organisation de relations internationales permanentes avec un petit nombre, si vous voulez, d'États étrangers qui étaient
au XVIe siècle,
des villes italiennes, des principautés allemandes, etc. L'Espagne, bien entendu, les grands voisins. Bon. Mais c'est la charge d'introducteur des ambassadeurs qui a été dégagée à ce moment-là.
C'est comme ça qu'on appelait le chef du protocole.
À partir du moment où les souverains ont avec les autres souverains, ou les villes souveraines, ou le doge de Venise, estimaient qu'il fallait un représentant permanent, si vous voulez, dans chaque cour. Et puis, il y avait une autre fonction qui tenait à l'aspect cour, si vous voulez, des monarchies, c'était le grand maître des cérémonies, qui organisait la vie de cour, qu'elle soit dans un lieu permanent ou dans un lieu nomade, si vous voulez. Et puis, l'évolution historique a dissocié, je veux dire, ces deux fonctions qui ont été réunis au moment de la Restauration, 1833, et puis ensuite dissociés par la Troisième République, puisqu'il n'y avait plus de cour, par hypothèse, mais il restait l'introducteur des ambassadeurs et le responsable du cérémonial, c'est-à-dire de tout ce qui se passait, non plus à la cour, mais à la présidence de la République.
Alors c'est toujours du ministère des Affaires étrangères, auquel vous apparteniez, que vient le chef du protocole. C'est forcément un diplomate.
Jusqu'à présent, ça a été un diplomate, je veux dire, pour des raisons, je dirais pour une double raison, par cette fonction que j'évoquais tout à l'heure, si vous voulez, de contact avec le monde extérieur, et la fonction qui s'est dégagée progressivement aussi, je dirais, de tutelle du corps diplomatique à Paris. Tutelle, c'est pas naturellement une relation hiérarchique, mais c'est une relation de service, si vous voulez. On s'occupe des lettres de créance, de l'accueil des ambassadeurs, de leur bien-être, des capacités qu'ils ont d'exercer leur mission quand ça dépend de nous à Paris, de leur départ, et puis des privilèges et immunités diplomatiques et consulaires, non seulement pour les ambassadeurs bilatéraux, mais pour toutes les organisations internationales en France, ce qui représente quand même un peu plus de 30 000 personnes. Vous voyez.
Et bien sûr, de l'accueil des chefs d'État étrangers, d'ailleurs un cérémonial qui n'a guère changé depuis la monarchie et qui permet à la République d'accueillir quand même sans complexe les souverains étrangers, comme sous Louis XIV, à ceci près qu'aujourd'hui, les rois ne viennent plus à Versailles en carrosse, mais à Orly en avion.
Sa Majesté le roi quitte son avion. Le roi serre maintenant la main du président de la République française qui lui présente le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Armées, le général-gouverneur militaire de Paris, le préfet de Seine-et-Oise, le préfet de police, le chef du protocole et le chef de l'état-major particulier du général de Gaulle. Tandis que les tambours éclairons, comme vous l'entendez, battent et sonnent au champ. Le président de la République et le roi sont en civil. Et voici l'hymne marocain.
Et c'était l'arrivée du roi du Maroc à Orly en 1963, accueilli par le général de Gaulle pour une visite d'État. Alors c'est une activité évidemment très importante, pas très fréquente dans le courant de l'année, André Gadeau. Je crois qu'il y a deux ou trois visites d'État qui sont organisées. Qu'est-ce qui les distingue d'ailleurs des visites officielles?
Le nombre n'est pas fixé. C'est le président de la République qui fixe en vertu, si vous voulez, de sa politique. La distinction est très forte parce que la visite d'État, je dirais, c'est pas une carte, c'est un menu. Il y a un certain nombre d'exercices qui sont imposés. Enfin, on peut toujours négocier, mais normalement imposés. Il y a l'arrivée à Orly, normalement accueillie par le chef de l'État, jusqu'à la présidence Chirac où les choses ont un peu varié. Mais enfin, du temps de Mitterrand, le président était toujours à Orly. Il y a un transport en hélicoptère ou en voiture jusqu'à la rotonde qui est sur le sol des Invalides, oui, sur l'esplanade des Invalides. Là. Et là, la garde républicaine en grande tenue, à cheval, avec batterie fanfare à cheval, accompagne les deux chefs d'État à Marigny, où le chef d'État invité est reçu et logé. Ensuite, il y a le chef d'État invité, le secrétaire général de l'Élysée vient le chercher et l'amène pour l'audience en fin de journée à l'Élysée. Là, il y a un autre cérémonial d'arrivée à l'Élysée, etc. Ensuite, il repart à Marigny et il revient pour le dîner d'État. Le lendemain, qui a son protocole aussi, le lendemain, vous avez en général l'Arc de Triomphe et la mairie de Paris. Et si c'est prévu dans la visite, tout ça, c'est des exercices, si vous voulez, pas obligés, mais enfin, auxquels tout le monde tient, y compris naturellement les étrangers. Et ensuite, vous avez possibilité de varier, c'est-à-dire le chef d'État reçoit à Marigny les ministres qui le décident, et il peut aller voir les présidents de l'Assemblée, et il peut réunir, si vous voulez, les gens du CNPF, s'il veut avoir une discussion sur les relations bilatérales économiques entre son pays et le nôtre, etc.
Et alors tout ça, évidemment, n'est pas improvisé. C'est suppose un énorme travail de votre part, de la part des chefs du protocole, en amont, André Gadot.
Je souris quand vous parlez d'improvisation. Le protocole est le contraire de l'improvisation. Si vous voulez, l'équation du protocole, c'est que l'exercice protocolaire doit paraître naturel et qu'il n'est pas naturel et que rien n'est naturel. Donc le naturel ne peut pas naître de l'improvisation, il ne peut naître que d'une construction ordonnée. Voilà.
Alors c'est vrai également pour l'inverse, c'est-à-dire pour la visite du chef de l'État, les visites du chef de l'État à l'étranger. Là, vous vous déplacez pour préparer évidemment tout cela.
C'est ça, on se déplace pour négocier le programme, parce que c'est pour ça qu'il y a une négociation un peu diplomatique, parce que le chef d'État français peut avoir ses idées concernant la durée, concernant ce qu'on lui fait faire, concernant les exercices purement protocolaires qu'il peut vouloir un peu diminuer. Oui. Donc là, il y a une négociation à faire et il y a une organisation. C'est-à-dire, nous devons dire à combien nous arrivons, avec quel aéronef, à quel moment, et puis agréer un programme commun. Et ensuite, dans l'organisation, nous devons nous préoccuper des logements, depuis le chef, des invités, des policiers, des journalistes. Il y a énormément de choses à régler, des questions médicales qu'il faut organiser au cas où. Enfin, et je dirais pour les journalistes, il faut voir où se fera la conférence de presse, quels seront leurs instruments de travail, quels seront leurs moyens de communication, quels seront leurs conditions d'hébergement, enfin voilà.
Alors, il y a autre activité.
Plus toutes les questions de sécurité, bien entendu.
Alors, autre activité, moins connue, mais au moins aussi importante que pour le service du protocole, les visites du chef de l'État en France. Elles sont plus nombreuses que les déplacements à l'étranger, mais aussi tout aussi difficiles à organiser, comme celle qu'avait effectuée Valéry Giscard d'Estaing, très surpris un jour de voir qu'à son retour en hélicoptère à Issy-les-Moulineaux, aucune voiture ne l'attendait.
Il y avait un loupé quelconque dans les transmissions, il n'y avait personne. Je me trouve donc président de la République, et si le Munot, l'hélicoptère repart, quoi faire? Je regarde un peu autour de moi, et heureusement, j'aperçois un gendarme qui était là et qui gardait plus ou moins le terrain. Alors il vient, il me dit « Comment ça va ?» Je dis « Bonjour ». Est-ce que vous avez une voiture? Il me dit « Oui, j'en ai une, mais enfin, c'est ma voiture personnelle. » Bon, qu'est-ce que c'est? C'est une vieille deux chevaux. Il dit, bah, écoutez, s'il n'y a que ça, on va la prendre. Et on est parti, on a traversé Paris. Lui était en uniforme au volant de sa deux chevaux. Moi, j'étais assis à côté de lui. Les gens regardaient cet équipage avec stupéfaction. Et quand on est arrivé à l'Élysée, c'était encore plus curieux. Parce que le protocole républicain en a été stupéfait.
Est-ce que ça vous est arrivé, André Gadot?
Non, moi, ça ne pouvait pas m'arriver parce que, si vous voulez, sous le président Mitterrand, le protocole n'intervenait, je dirais, en dehors de Paris, que lorsqu'il y avait un rapport avec un chef d'État étranger. C'est-à-dire lorsqu'on faisait un sommet bilatéral ou une réunion de travail dans une préfecture, si vous voulez. Et à ce moment-là, l'administration de l'Élysée prévoyait que j'accompagnais le chef de cabinet, qui normalement est chargé des relations avec les préfets, si vous voulez. Donc, dans une situation comme celle qu'évoquait le président Giscard d'Estaing, je n'aurais pas été là et je n'aurais pas voulu être à la place du chef de cabinet.
Qui a dû se faire engueuler. Alors, En revanche, là où vous êtes là, vous êtes même le premier. Enfin, quand je dis vous, ça ne vous est pas arrivé personnellement, puisque M. Mitterrand était déjà élu et que vos activités se sont arrêtées en 1993. Mais c'est le chef de protocole qui accueille le président de la République, que je le disais tout à l'heure, au moment de son investiture. Autre moment important, et puis le premier contact peut-être entre le chef du protocole et le chef de l'État, c'est l'investiture. Il y a beaucoup de cérémonies quand même pour lesquelles vous êtes, le protocole est sollicité, la présentation des vœux, 4 commémorations aussi que vous citez dans un article d'Historia, André Gadeau.
Oui, le protocole est sollicité pour ce qui se passe à l'étranger, je dirais en permanence. Alors, ce n'est pas toujours au niveau du chef du protocole. Il y a une cellule de 4 ou 5 personnes à l'Élysée qui s'occupe de ça, si vous voulez, mais pour tout... Pour toutes les arrivées à l'Élysée, pour tout ce qui se passe à l'Élysée, il y a un cérémonial du protocole qui est soumis au chef de l'État pour dire exactement comment ça va se passer. Et il y a un agent du protocole qui est là pour vérifier que ça se passe bien et pour prendre l'orage si ça se passe mal.
Voilà. La présentation des vœux, qui n'est pas un déplacement à l'étranger, là aussi le protocole intervient.
Oui, le protocole intervient. C'est un exercice à la fois politique et très protocolaire, oui, bien sûr. C'est un exercice long d'ailleurs et... fatigant pour tout le monde, à commencer par le chef de l'État, bien entendu.
Il y a 4 commémorations annuelles aussi, le 14 juillet, n'étant pas simple à organiser, non, je suppose, non plus, André Gadeau.
Non, ça, c'est pas très simple à organiser. Ça dépend de ce que le président veut, parce qu'il peut varier, si vous voulez, sur le contenu de la cérémonie, enfin, mis à part les choses essentielles, comme l'Arc de Triomphe, etc. Mais il faut organiser ça. Et puis, quelquefois, moi, ce que j'ai connu aussi, c'est qu'après le 14 juillet... Il y avait une année, nous avons eu après le 14 juillet, une réception à Rambouillet du président Bush qui arrivait de je ne sais où. Et voilà, donc on a fait une journée continue, je dirais, jusqu'à 11h du soir.
Puis il faut placer, bien entendu, les gens en bas des Champs-Élysées.
Il faut faire les tribunes. Oui.
Alors c'est très important. Vraiment, c'est là que le chef du protocole doit se faire de temps en temps du souci, puisqu'il faut placer les gens à l'endroit que leurs réserves vous font la liste protocolaire. Écoutez, France Inter, Gérard Courchel, le 15 septembre 1989.
La République aura bientôt un nouveau protocole, l'ancien date de 1907. Les nouvelles règles de l'étiquette républicaine mettent fin en particulier au casse-tête des maîtres de cérémonie qui ne savaient jamais où placer les anciens présidents de la République. Le nouveau protocole a aussi tout prévu pour les conjoints des ministres, notamment les maris de ces dames du gouvernement, une question que Madame Simone Veil évoquait à l'oreille en coin sur France Inter il y a quelque temps.
Il n'y a pas de place pour les maris. Alors on les met là où on peut. Et un jour je me suis plainte. J'ai dit au chef du protocole, mon mari ne viendra plus, c'est pas possible. J'en ai assez, il est toujours aux chiottes. Ça a été affreux, ça fait le tour des ambassades. On a dit, comment elle a osé dire, au Quai d'Orsay, ils sont voilà, la face, elle a dit, c'est impossible, etc. Le prince consort, ça va, mais les maris de ministres, ça ne va pas du tout.
Est-ce que c'est à vous que s'est adressée Simone Veil pour protester contre la place ou l'absence de place pour son mari ?
Non. Mais si je peux citer une anecdote, l'épouse d'un premier ministre, un jour, passé un coup de fil, disons un peu à cheval, et parce qu'elle trouvait que dans les visites d'État, où le premier ministre doit donner un déjeuner au Quai d'Orsay, il y avait toujours le même protocole à la table d'honneur, c'est-à-dire les présidents d'assemblée, etc. Et charmante personne trouvait qu'elle avait toujours le même interlocuteur à côté d'elle, qui était âgé, qui s'endormait, enfin que ce n'était pas très drôle, quoi. Et alors j'ai dit que je ne pouvais pas changer. Elle m'a dit, madame, c'est une affaire. C'est un déjeuner d'État. Si on change, les gens qui viennent nous voir ne sont pas obligés d'accepter ça, n'est-ce pas ? Oui, mais j'ai dit, madame, vous pouvez recevoir à Matignon qui vous voulez. Vous êtes chez vous. Mais quand vous recevez au Quai d'Orsay dans le cadre d'une visite d'État, c'est le statut du Premier ministre qui est en cause, n'est-ce pas ? Et on ne peut pas décider... simplement que vous allez inviter vos invités personnels. Alors, il a fallu faire comprendre ça.
C'est un casse-tête, je suppose, et puis assez angoissant pour le chef du protocole, la place, l'endroit où les gens sont placés à un moment d'un repas officiel.
Le casse-tête commence quand on sort de la liste, des préséances, si vous voulez. Quand il faut placer des gens qui... Je sais qu'un jour, par exemple, pour l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout était réglé tranquillement, si je dois dire. Et puis, il y a eu un événement politique majeur, c'est que les Polonais ont laissé sortir Walesa et les Russes Sakharov. Alors, ce qui devait être quelque chose de très réglé est devenu une furia médiatique, si vous voulez.
Et puis, il y a les gens qui...
Et alors, à ce moment-là, il faut les placer en urgence, et c'est compliqué, oui. Ouais, c'est compliqué.
Il y a aussi les gens qui ne disent pas s'ils vont venir. Enfin, il y a parfois des places libres.
Oui.
Je crois
oui.
qu'un jour, on avait demandé oui. au chauffeur qui était à l'extérieur de venir parce qu'il y avait des trous autour de la table à l'Élysée.
Ce qui peut se passer, enfin, moi, je l'ai vu malheureusement, c'est que les gens soit ne répondent pas, soit viennent ayant répondu qu'ils ne venaient pas. Enfin, il peut y avoir des problèmes de dernière minute. Et c'est pour ça, finalement, que... Dans les deux septembre, le président Mitterrand, il avait été décidé de faire des petites tables parce que c'était plus facile d'assortir des petites tables et d'avoir une conversation, si vous voulez, entre les convives.
Alors, c'est très rigide, le protocole, et pourtant, André Gadeau, il a évolué, on l'a entendu, en 1989, je crois qu'on a modifié la liste protocolaire, justement.
C'est pas si rigide que ça, je veux dire, c'est ordonné. C'est-à-dire, la liste protocolaire de 1907, entre 1907 et 1989-90, quand on a commencé à réfléchir à la liste des préséances, l'État avait beaucoup changé dans ses dimensions, dans son rapport au monde, dans la construction européenne, dans la décentralisation, la régionalisation, les autorités indépendantes. Il y avait énormément de choses à intégrer, si vous voulez, dans la liste. Alors le préfet Gandoin a fait... un énorme travail qui a donné lieu à beaucoup d'arbitrages au niveau du secrétaire général du gouvernement. Beaucoup de gémissements, bien sûr, beaucoup d'interventions de toutes sortes. Et puis finalement, le décret est sorti. On l'a appliqué, je me rappelle, on l'a appliqué début 91.
Et puis le chef de l'État lui-même peut décider de changer des choses.
Bien sûr.
Par exemple, on ne porte plus, il ne porte plus depuis Valéry Giscard d'Estaing la jaquette.
Non, bien sûr.
Ni le grand collier de l'ordre de la Légion d'honneur.
Oui. Non, mais le chef de l'État peut changer énormément de choses, bien sûr. Mais les listes de préséance, personne n'a intérêt à les changer parce que ça fait beaucoup de problèmes.
Qu'est-ce qui est prévu? On a vu que Madame Veil n'était pas contente du tout que son mari soit obligé d'aller aux toilettes ou presque pendant les dîners, pendant les réceptions officielles. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que la femme du président de la République, c'est très actuel, a sa place et quelle est sa place dans le protocole?
La femme du président de la République a toute sa place dans le protocole. Je veux dire, elle est la première des dames invitées. Mmh, c'est évident. Elle est chez elle en plus.
Mais sur la liste protocolaire
sur la liste protocolaire, elle n'y figure pas parce que ce n'est pas un haut fonctionnaire et elle n'est pas élue, si vous voulez.
Mais sur les textes qui régissent un petit peu, justement, l'ordonnancement des choses, est-ce qu'elle est présente? Qu'est-ce qui est prévu pour elle?
Bien entendu, elle est présente quand elle veut être présente et quand le chef de l'État souhaite qu'elle soit présente, elle est présente dans toutes les manifestations. C'est à elle de choisir en accord avec le chef de l'État. Naturellement, elle est présente dans les visites d'État et elle est présente dans les grandes cérémonies, comme le 14 juillet.
Alors, la tâche du chef du protocole doit être plus ou moins difficile selon les situations politiques. Il y en a une que vous n'avez pas connue, puisque vous étiez chef du protocole entre 1988 et 1993, mais c'est celle de la cohabitation. Évidemment, lorsque Jacques Chirac était Premier ministre de François Mitterrand, le fait qu'il voulait assister à certaines grandes manifestations à l'étranger, des sommets, par exemple à Tokyo, devait poser de sérieux problèmes de protocole.
Oui, ça posait de sérieux problèmes parce que, pour deux raisons, si vous voulez. La première raison ne posait pas de problème. Il y a une prééminence protocolaire du chef de l'État, quelle que soit la situation, si vous voulez. Il passe le premier. Bon. Mais ça posait problème parce que le nombre de sièges dans ces enceintes internationales sont extrêmement limités. Il y en a deux par pays, sur une base d'égalité. Donc, c'est... en général, le président et le ministre des Affaires étrangères.
Et il faut qu'il cède sa place, je suppose.
Et à ce moment-là, il faut que le ministre des Affaires étrangères cède sa place, ce qui a été le cas. Et dans les enceintes européennes, c'est pareil, c'est deux. Donc en général, c'est le président, le ministre des Affaires étrangères. Et à ce moment-là, le ministre des Affaires européennes est très frustré, puisque c'est le seul moment où il pourrait apparaître et où il n'apparaît pas, si vous voulez. Voilà. Mais c'est comme ça.
Il y a des moments de tension. Je crois qu'un sommet franco-espagnol auquel voulait participer Jacques Chirac en même temps que le président de la République, François Mitterrand, c'était en 1987. L'avion du président de la République étant parti avant, il a donc atterri également avant à Madrid. Et comme il n'était pas question de recevoir Jacques Chirac au moment où le président de la République était sur l'aéroport de Madrid, François Mitterrand aurait fait traîner les choses de manière à faire tourner en rond l'avion de Jacques Chirac au-dessus de Madrid.
C'est possible, c'est possible. Je n'ai pas vécu, donc je ne peux pas me prononcer.
Alors, autre moment où le protocole est mis à l'épreuve et où une erreur peut entraîner des incidents diplomatiques, les visites d'État comme celle-ci, quand la reine d'Angleterre était accueillie à Paris il y a 4 ans, France Inter, Pierre Veil, le 5 avril 2004.
La reine Elisabeth II d'Angleterre commence aujourd'hui une visite d'État de 3 jours en France, et cela pour célébrer le centenaire de l'entente cordiale. Et ce matin, plusieurs quotidiens de Londres se montrent très critiques à l'égard de Bernadette et Jacques Chirac en dénonçant, je cite ces quotidiens, leur maladresse lors de la première journée de la visite royale. À Londres, Christian Rondeau.
Oui, première grave erreur selon le Daily Telegraph, le choix de la place de la Concorde pour accueillir Elisabeth II. Un endroit inconfortable pour les monarques, note le quotidien. La Concorde, c'est après tout cette place où l'on faisait rouler les têtes royales durant la Révolution française. Le Daily Express, lui, s'en prend à Bernadette Chirac, coupable d'une impardonnable faute de goût vestimentaire. La première dame de France était en effet vêtue de blanc comme la reine d'Angleterre, ce qui bien sûr ne se fait pas. Mais le pire est ce crime de lèse-majesté commis par le président. En osant toucher la reine, un acte interdit par le protocole royal, Jacques Chirac a fait preuve de culot selon le Sun. La BBC note cependant qu'Elisabeth ne semblait pas du tout gênée par la cordialité très tactile du président français. Preuve que les tabloïds anglais sont certainement plus royalistes que la reine.
Est-ce que la couleur de la robe de Madame Chirac en 2004 ou encore le choix de la place de la Concorde à l'endroit même où on avait guillotiné Louis XVI, eh bien ça relève au fond du protocole. Est-ce qu'il en est responsable?
Vous savez, le choix de la place de la Concorde, c'est pas du tout un choix qui a été fait par les Français. Moi, j'ai pas préparé cette visite, j'ai préparé la précédente, mais je me suis renseigné quand même. Ce choix a été imposé finalement par la reine qui, voulant faire un geste, est arrivée à Paris par l'Eurostar. Donc elle est arrivée dans une gare. Et à ce moment-là, ça a perturbé les conditions d'accueil, puisqu'il n'y a pas de salon, il n'y a pas de salon du protocole dans les gares françaises. Et puis, on ne va pas faire les honneurs militaires pleins sur le parvis d'une gare. Vous voyez. Donc elle est arrivée avec sa voiture, elle avait fait transporter sa voiture, qui est arrivée normalement par le chemin Place de la Concorde, puisque le prochain exercice était à l'Arc de Triomphe. Alors évidemment, les conditions d'accueil qui sont impeccablement réglées à Orly ont dû être adaptées. Et ce n'était pas aussi parfait, si vous voulez, que le système d'accueil anglais qui ne varie jamais.
Quel est votre plus mauvais souvenir, André Gadeau, de chef du protocole?
Bah, j'ai peut-être eu de la chance, je n'ai pas énormément de mauvais souvenirs. J'en ai un quand même qui n'était pas un bon souvenir. C'est que à l'issue, si vous voulez, de grand exercice qui a été le bicentenaire de la Révolution, on a enchaîné le 15 juillet sur un sommet à l'Arche de la Défense. Et à la fin du sommet, il devait y avoir une photo des chefs d'État des 7 puissances les plus importantes du monde à l'époque. Et entre le moment où la discussion autour d'une table ronde s'est terminée et cette photo, le président est parti se reposer, enfin est parti dans le bureau qui lui avait été consacré. Et compte tenu de la topographie de l'Arche de la Défense, c'était assez loin, n'est-ce pas? Il fallait bon. Et pendant ce temps-là, les chefs d'État avaient envie de se détendre et ont joué un peu les collégiens. Et poussés par les poules de presse, on a pris des photos des uns et des autres sans le président Mitterrand, qui n'était pas là par hypothèse. Bon. Donc quand on m'a dit qu'il était prêt, je me suis avancé, et je ne sais qui dans l'entourage, il faut toujours se méfier des entourages, sans pouvoir y faire grand-chose d'ailleurs, lui a dit qu'on avait pris une photo sans lui. Et alors, il s'est tourné vers moi de manière extraordinairement irritée, n'est-ce pas? Vous n'auriez jamais dû tolérer ça. Je lui ai dit, monsieur le président, je ne pouvais pas empêcher le chancelier de Gaulle quand même de bouger. Enfin bref, il y a eu un moment de grande tension. Et le lendemain, et auquel le président, vous parliez des cohabitations, mais il y a quelquefois des cohabitations comme ça, au moment où M. Rocard a été témoin de ça. Il m'a téléphoné le lendemain pour savoir si j'étais toujours en poste, ce que j'étais.
Merci André Gadeau. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un article intitulé « Les raisons d'état du protocole élyséen », publié dans la revue Historia Thématique, qui consacre son numéro de janvier-février 2008 à la cour et ses courtisans, et actuellement en kiosque. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Éric Mainvielle, Michel Thomas, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, 1968, un Premier ministre dans la tourmente, Georges Pompidou.